France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. On se réjouit encore une semaine après du palmarès éclairé du Festival de Cannes, le jury emmené par Juliette Binoche ayant su donner une lecture cohérente, cinéphile et politique des 22 films qui étaient soumis à son jugement. Deux grands films ont été récompensés, La Palme d'Or, Un simple accident de Jafar Panahi en premier lieu. On y reviendra au fur et à mesure de leur sortie la saison prochaine, mais vous pouvez d'ores et déjà, si ce n'est déjà fait, écouter quatre des lauréats, dont Panahi, dans nos Plan Large cannois. Et pour rester pas très loin de Cannes, ce sont deux cinéastes qui ont leurs habitudes sur la croisette, auxquels nous nous intéressons aujourd'hui, qui tous deux s'épanouissent dans l'éclectisme des genres pour livrer une vision acérée de leurs sociétés respectives. Le premier y a présenté en compétition 5 de ses 7 longs métrages, même s'il en est toujours reparti bredouille. Il déploie dans sa filmographie des plus matérialistes un dialogue fécond avec de grands maîtres européens, tout comme avec ses prédécesseurs du Nouvel Hollywood, pétrissant depuis ses débuts une matière obsessionnelle qui a trait aussi bien à la difficulté pour les fils de survivre au père qu'à la lutte des classes et aux fallacieuses promesses de l'American Dream. C'est James Gray. Il n'avait pas de film à Cannes cette année, mais pour la toute première fois en France, une étude en profondeur et en finesse de son œuvre vient de paraître. Ça s'appelle James Gray sous le signe de Saturne et son autrice Gabriela Trujillo est notre première invitée aujourd'hui. En second temps, le toujours très prolifique Kiyoshi Kurosawa nous dira comment, avec deux de ses nouveaux films qui sortent à une semaine d'intervalle, Chime et Cloud, il poursuit son portrait au couteau d'une société japonaise déshumanisée, aliénante et criminogène. En fin d'émission, Sophie-Catherine Gallet traversera les miroirs du cinéma de Jean Cocteau, dont le premier et le dernier film sont ressortis en version restaurée, mais pour l'heure, on se plonge dans les clairs obscurs d'une filmographie qui appartient à la nuit, à moins que ce ne soit le contraire. Bonjour Gabriela Trujillo.
Bonjour Antoine.
C'est la fin de votre livre, page 135. C'est par là qu'on commence cette plongée dans l'œuvre saturnienne de James Gray. C'est l'ouverture de son troisième film en 2007, La nuit nous appartient. Après, sur cette musique de jazz qu'on a entendu, une série de photographies en noir et blanc qui datent des années 80. Elles sont issues d'un livre de Leonard Freed, Police Work. Voilà qu'arrive le Heart of Glass de Blondie. Voilà qu'arrive aussi le corps très alangui d'Amada. C'est Eva Mendes fixant son fiancé Bobby, c'est Joaquin Phoenix s'offrant à lui avant une plongée tout à fait dantesque dans la fête d'un nightclub à Brooklyn. En quelques minutes, écrivez-vous, Gray place au centre de son film la célébration des corps. Pourquoi, quand nous vous avons demandé de choisir des extraits pour cette émission des films de James Gray, avez-vous voulu commencer par ce film-là et cette scène-là, Gabriela Trujillo?
Eh bien, cette scène-là en particulier, parce qu'elle annonce d'une part la chute déjà aussi, on est à l'apogée des corps, à l'apogée de cette fête qui est celle que met en scène le film et qui va aller vers une forme de déchéance qui va s'articuler avec la tragédie shakespearienne que raconte le film. Et je trouvais important aussi d'entrer dans cette séquence qui peut sembler être un cliché de la beauté féminine, mais qui permet aussi par la suite, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, de parler à la fois de l'intelligence du film, de sa générosité et de l'extrême finesse du jeu de l'actrice Eva Mendes, qui déjoue en quelque sorte le stéréotype de sa figure de compagne d'un mafieux.
Oui, c'est un personnage tragique, on verra, c'est la mésalliance, une question qui revient souvent dans le cinéma de James Gray. Mais pour revenir à la fête, il y a deux sortes de fêtes chez James Gray. Il y a ces moments, effectivement, comme la boîte de nuit, des moments de pure jouissance, qui est aussi une jouissance de la mise en scène. Enfin, c'est un moment où James Gray se fait plaisir et nous fait plaisir. Et puis, il y a les fêtes familiales. Alors, les fêtes familiales, là, c'est toujours très frappant parce que vous l'écrivez, c'est la fête des seconds rôles et les premiers sont toujours évacués de ces fêtes-là. Ils en sont toujours absents.
Oui, j'ai trouvé intéressant de distinguer les agapes, ce que j'appelle les agapes, donc les fêtes familiales. Il y a les 85 ans de la grand-mère, le bar mitzvah, la fête des flics aussi dans La nuit nous appartient. Et je trouve que c'est étonnant parce que c'est le moment où on a toujours un plan qui s'attarde sur des personnages secondaires. Et en même temps, c'est toujours le type de soirée où le personnage principal ne peut pas s'amuser, n'est pas invité, où justement il est contraint d'y assister et on sait toujours que pendant ces fêtes, on est en train de rater la vraie soirée qui est toujours hors champ quelque part. Et il m'intéressait de les confronter toutes deux parce que c'est aussi le moment où les grands timides, parfois dépressifs, comme le personnage de Joaquin Phoenix dans Two Lovers, va se dépenser au sens presque bataillon, c'est-à-dire il va juste sortir de lui et vivre pendant une durée très éphémère le contact absolu avec l'objet de son désir.
Alors, il faut quand même préciser que la fête pour James Gray, ça se passe pas tellement à domicile. Pour lui non plus, ça se passe en Europe. C'est un peu le Jerry Lewis ou le Woody Allen des années 2000. Il n'est pas du tout considéré aux États-Unis. Il n'y a qu'en Europe en général et en France en particulier qu'on le célèbre comme un grand auteur américain.
Absolument. C'est vraiment quelqu'un qui, dont le renom s'est fait en Europe, déjà au Festival de Venise en 94, puis au Festival de Deauville et au Festival de Cannes. Donc c'est vraiment la presse française qui a constitué en quelque sorte cette figure de James Gray. Et c'est vrai que même, par exemple, son tout dernier film à cette date, Armageddon Time, a été quand même un succès à la fois critique et avec un nombre considérable d'entrées en France. Mais côté américain, c'était beaucoup plus problématique. Donc il représente vraiment cet amour que peut avoir la critique française ou la cinéphilie française pour ces auteurs américains qui parfois vivent une réalité beaucoup plus difficile chez eux.
Mais se rejoue en fait à peu près la même chose que dans toute l'histoire de la politique des auteurs. Est-ce que c'est parce que précisément ils naviguent dans les genres, notamment policiers en particulier, mais aussi mélodrame, science-fiction, drame historique, que James Gray n'est pas tellement identifié aux États-Unis ?
Je pense aussi que c'est parce qu'il tient, mais farouchement, et certains de ses conflits avec ses producteurs, dont Harvey Weinstein ou Miramax, avec les studios, je pense que c'est parce qu'il garde cette idée et cet impératif poétique et presque politique de la figure de l'auteur européen, comme vous le dites. Et je pense que dans la constitution actuelle même de la structure des studios, il n'y a plus de place ou très peu de place pour ce type de... pour ce type d'œuvre. Donc je pense qu'au-delà de la question des genres, qui est une question essentielle évidemment, on sait qu'après, quand il s'est distingué du film noir, par exemple, en sortant Two Lovers, son troisième film, il a quitté aussi la figure d'un seul type de film. Il a voulu explorer la fresque historique, le film avec des références autobiographiques. Mais je pense que c'est vraiment le fait de vouloir participer au sein des studios, avec des grands acteurs, grandes actrices, mais tout en gardant cette passion pour l'écriture du scénario, pour le final cut, qui font de lui presque parfois aussi un dinosaure au sein du système américain contemporain.
Alors, qui dit auteur dit obsession, dit geste répétitif, dit des figures qui reviennent, et celles qu'on a identifiées très vite et qui donnent le titre de votre livre, Gabriela Trujillo, c'est cette figure du père dévorant, du père Saturne, mais qui peut-être est un peu à nuancer, parce que c'est un père dévoré lui-même.
Absolument. Le père, déjà, moi je pensais à ce très beau titre qui est chez Balzac dans l'Histoire des 13, Le roi des dévorants, et j'aurais rêvé de pouvoir inventer un tel titre. Je pense que la figure du père, surtout jusqu'à The Lost City of Z, est celle qui s'impose au fils, donc celle qu'on n'arrive pas à comprendre, celle qui veut dévorer le fils, et celle à laquelle, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à laquelle on doit survivre. Mais c'est ce père aussi qui, je pense, comme à nouveau, je fais toujours des rapprochements littéraires, puisque pour moi, c'était évident qu'il y a cet ancrage littéraire chez James Gray. Donc, comme chez Kafka, par exemple, c'est un père qui est tyrannique parce qu'il est lui-même aliéné. Il reconduit une violence dont il est lui-même victime. Et les pères de James Gray, que ce soit au sein de la mafia, au sein de la police, ce sont aussi des figures dévorantes parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qui renvoie justement à une transmission problématique à la fois de la question de la masculinité, mais aussi à la question matérielle du modèle américain, aux questions sociales. C'est le père qui gère, et souvent très mal, un peu comme il peut. Il fait vraiment comme il peut, et il essaye de gérer comme ça, en tant que chef de famille, une figure qui le dépasse déjà.
Et James Gray a lui-même un nombre de pères assez incalculable. C'est quelqu'un qui dialogue avec ses prédécesseurs immédiats, avec les Coppola, les Scorsese, les grands cinéastes du Nouvel Hollywood, et au-delà, avec de grandes figures du cinéma, alors moins classiques que modernes, avec des Antonioni, des Fellini. Et ce que raconte votre livre, c'est que tous ces films sont des sortes de palimpsestes. C'est que si on gratte un peu, on trouve très vite en dessous un autre film dont il reprend souvent très exactement la structure.
Oui, j'ai eu plaisir à revoir des films et à revoir les films de James Gray à l'aune justement du palimpseste. Et parfois, je prends le temps de décrire scène par scène, parce que pour moi, c'était à la fois une découverte, un étonnement et un ravissement. Par exemple, de voir que The Immigrant est un remake de La Strada de Fellini, à laquelle il plaque voilà l'histoire de sa grand-mère. Je trouvais que c'était essentiel de rappeler ce rapport de James Gray à ses prédécesseurs, que ce soit Fellini et beaucoup Visconti, qui pour moi est une sorte de fée qui se penche au-dessus des premiers films de James Gray et dont on oublie souvent la prégnance.
Puisque vous parliez de The Immigrant, la voilà.
On my signal! Ready? Aim! Fire! Ladies and gentlemen, Orlando the magician has been shot dead! This is tragic! Where is Orlando?
Miss.
Don't give up the faith. Don't give up the hope. The American dream is waiting for you. Now, without further ado, I give you the great Caruso!
Deuxième extrait que vous avez choisi, Gabriela Trujillo, pour cette discussion sur le cinéma de James Gray. C'est une scène très coppolienne, monumentale de The Immigrant, son film de 2013, tourné avec 5 caméras, des centaines de figurants, tous captivés par la musique symphonique et la voix de Joseph Calleja dans le rôle de Caruso, celui qu'on entend chanter, venu donner, et c'est historiquement avéré, un récital aux immigrés qui attendent leur entrée aux États-Unis sur Ellis Island. C'est un des plus beaux moment de sa carrière de cinéaste pour James Gray.
En effet, dans des entretiens qu'il avait menés avec Jordan Minter, dont certains sont encore inédits. Jordan Minter avait édité ses interviews menées sur chacun de ses films, et il rappelle justement à quel point c'était émouvant non seulement de revenir dans les lieux mêmes de Ellis Island, qui est devenu maintenant un lieu de visite, un lieu de tourisme, mais d'avoir accès à ces lieux où ses propres grands-parents, ayant fui les pogroms en Europe, étaient entrés au début des années 20, mais qui est un lieu aussi, un lieu iconique aussi pour le cinéma américain, pour nous tous, notre cinéphilie, elle retourne souvent à Ellis Island. Donc c'est vrai que c'est un moment très très fort et qui permet aussi de mettre en place à la fois l'intrigue amoureuse et la fascination du personnage de Marion Cotillard pour ce personnage insaisissable du magicien. Et j'aime beaucoup ce moment de lévitation, de grâce pure, et qui se mêle au documentaire, en tout cas à la référence historique avérée d'un Caruso à l'enchanté pour les immigrés italiens, pour qu'ils se sentent bien accueillis aux États-Unis, ce qui nous éloigne vraiment beaucoup de l'actualité.
Oui, on imagine mal aujourd'hui un concert donné par une star immense, donné aux migrants qui essaient d'entrer aux États-Unis. Alors, on a entendu ce magicien Orlando dire aux immigrants, ne cessez pas de croire, ne perdez pas espoir, le rêve américain vous attend. Et après, la question du père, c'est la deuxième grande obsession de James Gray, cette question du rêve américain et surtout de ses promesses tout à fait fallacieuses.
Absolument, je pense qu'il tisse aussi quelque part une histoire matérielle de ce rêve américain du point de vue de là où il a failli, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de beaucoup de personnages qui sont restés en marge, qui sont restés, enfin qui n'ont pas pu atteindre en quelque sorte cet idéal du rêve américain qu'on brandit de manière très facile, et son cinéma essaye d'aller dans les interstices de ce rêve, à la fois de sa complexité, de son impuissance, ou comme dans The Immigrant, même de l'avant-chambre, du lieu où on pense qu'on y aura accès en se mêlant à des petits malfrats, à la mafia ou à Madame Rosie, dans des lieux un peu interlopes. Et en fait, on reste toujours en marge de ce rêve qui devait accueillir tout le monde à égalité.
Le rêve américain brisé de James Gray, c'est aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ses difficultés avec ses producteurs, et Harvey Weinstein en particulier. Il y a toujours deux films chez James Gray. Il y a celui qu'il voulait faire et celui qu'il a fait, ou celui qui a été tripatouillé par ses producteurs. Et ce qui explique peut-être que parfois on est un peu désarçonné par les fins des films de James Gray, où on se dit mais pourquoi il a d'autant réussi son début pour rater sa fin. Vous avez des explications. Dans The Yards, il y a une scène de repentir imposée par le producteur. Dans Ad Astra, il y a une voix off désastreuse qui est encore une mauvaise idée d'Harvey Weinstein. Ce sont tous, à plus ou moins à des degrés divers, des grands films malades.
Absolument. Moi, j'ai dans cette définition de Truffaut du grand film malade, j'ai vu avant tout Ad Astra, qui pour moi est un film qui devait être une grande fresque intime de James Gray, son grand film d'astronaute, un projet aussi porté pendant longtemps, et qui, par des questions de production, se voit justement affublé de cette voix off qui en affaiblit le propos, surtout pour les plus cinéphiles d'entre nous, et qui insiste un peu trop sur des questions de résolution morale, de leçons qui nous ont un peu agacés. Donc c'est un film, c'est vrai, qu'on a parfois un peu boudé. Et pour The Yards, c'était évident aussi que on aurait presque pu quitter la salle avant le discours de repentir de Mark Wahlberg. Mais comme James Gray est un cinéaste qui ne peut pas s'empêcher d'avouer aux journalistes, on arrive presque à reconstituer la trame justement des films dont il a des films qu'il avait rêvé. Et c'est étonnant aussi comme enquête. Moi, j'aime beaucoup porter cette enquête et savoir pourquoi à tel moment il y a Harvey Weinstein qui revient par la suite à nouveau en tant que chef de Miramax, alors que normalement normalement James Gray aurait pu se débarrasser de lui, mais ces contraintes aussi me le rendent encore plus aimable en termes de cinéma, parce que c'est encore quelqu'un qui va se battre pour le film qu'il voulait et qui va le dire haut et fort, même s'il ne devrait pas. Il va toujours nous dire le film dont il rêvait.
Alors, le film dont il rêve en ce moment s'appelle Paper Tiger. Vous avez lu le scénario, vous avez eu cette chance-là. Où va James Gray maintenant? On a l'impression qu'il renoue un peu avec des motifs de ses débuts, de Little Odessa, deux frères aux prises avec la mafia russe.
Alors je dois le remercier parce qu'effectivement il m'a fait confiance pour ce film qui était censé, au moment de l'impression du livre, le tournage devait débuter avec un certain casting qui a encore évolué et qui débutera cet été. En tout cas, le scénario renoue en effet avec les problématiques de Little Odessa et aussi avec s'inscrit dans une forme de continuité avec Armageddon Time. C'est-à-dire qu'on revient à la figure des pères, on retrouve deux frères qui sont donc il se confronte à la mafia russe et on revient aussi à des obsessions sociales, donc celle de la honte sociale, de la honte des origines d'un père par rapport à ses enfants, c'est-à-dire comment on rachète l'honneur d'un père. Ils essayent, voilà. Mais il y a une chose qui est très belle, et quand vous dites, quand vous demandez où va James Gray, moi j'ai toujours de bons espoirs. On est impatients évidemment de revoir ses films, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement dans ces histoires de transmission brisée, de masculinité qui peine à survivre dans le monde actuel, il invente une nouvelle forme d'affect qui est extrêmement riche et qui est un sentiment évident entre les hommes dans ces films, c'est l'amour entre les frères. Et c'est ce qui fait la beauté, le ferment de ce film qu'on attend avec impatience et qui pour l'instant s'appelle encore Paper Tiger.
People won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it over. No one will guide you long in time.
Pourquoi Armageddon Time s'appelle Armageddon Time? La réponse est dans cette chanson des Clash. Merci Gabriella Trujillo. Votre livre James Gray sous le signe de Saturne est tout juste paru, il est tout frais aux éditions Capricci, à compléter avec une de vos sources que vous avez citées, le très beau livre d'entretien en édition bilingue que James Gray a accordé au critique américain Jordan Mincer. C'est aux éditions Cinecdoc. Et pour vous entendre parler d'un autre de vos cinéastes de chevet, le japonais Kenji Mizoguchi, c'était dans Plan Large le 18 janvier 2020 à vos podcasts. Vous écoutez précisément Plan Large sur France Culture, et puisqu'on parle de cinéaste japonais, l'un des plus féconds depuis les 40 dernières années, c'est Kiyoshi Kurosawa, le grand maître de l'effroi urbain, mais pas seulement, puisqu'il ne dédaigne lui aussi ni la science-fiction, ni le polar, ni même le plus pur mélodrame. 2024 a été une année faste pour l'auteur de Cure, Charisma, Cairo et Tokyo Sonata, pour ne citer que quelques pierres de touche de sa très riche filmographie. Il a signé deux longs métrages et un moyen, mais d'une grande acuité. Et en attendant cet été La Voix du Serpent, remake français avec Damien Bonnard, Mathieu Amalric et Grégoire Collin de son Chemin du Serpent de 1998, sorte coup sur coup cette semaine semaine et la prochaine, Chime et Cloud. Dans le premier, un professeur de cuisine voit son univers policé et contaminé, grand motif du cinéaste, par un bruit, un carillon qui ne résonne que dans la tête de ses victimes et qui pousse au meurtre ceux qui l'entendent. Dans le second, un revendeur en ligne d'objets les plus divers se retrouve menacé physiquement par de très énervés clients virtuels. Dans les deux cas, c'est avec son sens acéré de la mise en scène, toute une société de plus en plus déshumanisée, aliénante et criminogène qu'ausculte Kiyoshi Kurosawa dans une épure telle que l'effroi naît avant tout du vide à l'image comme au son. Nous l'avons rencontré, Kiyoshi Kurosawa, lors de son passage à Paris. Il revenait du festival Reims Polar qui lui rendait hommage. Bonjour, Kiyoshi Kurosawa.
Enchanté.
Il est toujours difficile quand deux films sortent en même temps, c'est le cas de Chime et de Cloud, de se dire qu'il y a un projet global. Cependant, on peut se dire qu'avec ces titres, Chime et Cloud, c'est-à-dire un carillon et un nuage, ben finalement vous filmez quelque chose qui est invisible, qui n'a en tout cas pas d'épaisseur matérielle.
Oui,
comme vous dites, dans ces deux films, il est question d'invisible, c'est un des thèmes des deux films.
Mais
alors certes, il s'agit de choses invisibles, mais pourtant ce sont des choses qui sont bien là. Les héros se retrouvent, se rendent compte qu'il y a cette chose invisible, et cette chose invisible va avoir une influence sur les personnages, et à la fin du film, cette chose invisible ne concerne pas que les personnages, mais le monde entier. Et mon intention de ces deux films était de montrer comment l'invisible va petit à petit venir grignoter sur le monde entier.
Le principe de la contamination, c'est quelque chose qu'on connaît chez vous depuis longtemps, depuis vos films fantastiques ou d'horreur des années 90. Vous vouliez aussi renouer avec ce motif-là ?
Oui, bien sûr.
Mais
cette question de la contamination, je ne voulais pas que ce soit le thème principal de mes films. Je voulais plutôt que ce soit dans Chime ou dans Cloud, c'est de mettre en scène des héros extrêmement banals qu'on peut trouver n'importe où au Japon aujourd'hui. Ces gens extrêmement banals mènent une vie très ordinaire. Il ne leur arrive pas de choses incroyables, de choses qui sortent du réel. Ils mènent un quotidien tout à fait ordinaire. Ce sont des gens qui n'ont pas de colère ou de frustration particulière.
Mais
ce que je voulais montrer, ce sont des personnages comme ça, très ordinaires, qui tout d'un coup vont faire face à l'inattendu et vont être conduits à commettre peut-être des crimes.
Et donc,
pour qu'un héros banal se retrouve confronté à cette situation, il faut qu'il y ait une force extérieure qui vienne le contaminer. Et en ça, il était nécessaire d'introduire le thème de la contamination, d'introduire quelque chose contre lequel le héros ne peut pas lutter pour qu'on sorte de son quotidien banal.
C'est une force extérieure, mais on a l'impression pourtant
qu'elle vient de l'environnement même. Par exemple, prenons le cas de Chaim. Nous sommes dans un cours de cuisine. Forcément, dans un cours de cuisine, il y a des couteaux partout. Et un des enjeux de la mise en scène, c'est de nous inquiéter avec des plans sur des couteaux.
Oui, c'est vrai qu'on trouve dans toute cuisine des couteaux et dans les écoles de cuisine encore plus. C'est une situation tout à fait ordinaire.
Et puis, donc,
ce son de carillon que l'on entend imperceptiblement va avoir pour effet de provoquer une situation terrifiante. Et c'est voilà, pour ça que j'ai utilisé voilà, ce son un petit peu inquiétant pour introduire tout d'un coup quelque chose de mystérieux et l'annonce de quelque chose de terrible qui va se produire.
Vous l'avez dit, c'est un son imperceptible et vous mettez le spectateur dans cette situation d'essayer de percevoir des choses. Souvent, vous faites ça dans le plan par une façon de vider le plan. Et ce sont les plans les plus vides qui sont les plus inquiétants. Dans quel état voulez-vous mettre le spectateur quand il regarde vos films, Kyushu Kurosawa ?
Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve vraiment aux origines du cinéma en lui-même. Quand on filme quelque chose, on obtient une forme d'expression.
Mais
si on ne filme rien, qu'est-ce que le spectateur, lui, il va imaginer ? Quand je dis qu'il n'y a rien, je pense à un espace vide, une chambre où il n'y aurait rien. Mais on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui est caché dedans. Et je me demande si le spectateur ne va pas prendre conscience du cadre de l'image, du cadre du cinéma. S'il prend conscience qu'on est dans un cadre et que ce cadre montre une chambre vide, là, il va se dire, mais n'y aurait-il pas quelque chose en dehors de ce cadre ? Quelque chose qui n'est pas à l'image, mais ce monde qui se déploie à l'extérieur, il est forcément présent. Et qu'est-ce que c'est que ce monde qu'il y a en dehors du cadre ? Ça peut être quelque chose de magnifique ou quelque chose de terrifiant. Et le spectateur, s'il a envie de savoir ce que c'est, Il va entrer de plus en plus dans ce cadre pour pouvoir trouver, comprendre ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est pour ça que je pense que les plans vides au cinéma ont ce pouvoir d'attirer irrésistiblement le spectateur.
Et d'ailleurs, Chaim est un film qui est court. On se dit que d'autres cinéastes que vous auraient montré les contre-champs de ce qui effraie le personnage principal. Nous, on ne le voit pas. C'est caché quelque part, à l'intérieur peut-être d'une collure entre deux images. Vous vouliez cette épure particulièrement dans Chaim ?
C'est difficile de répondre à cette question. Bien sûr. Alors, tout est aussi une question de budget et de temps. Si on a le temps et le budget, on peut faire des choses impressionnantes qui peuvent terrifier le spectateur et ça a un apport énorme pour un film. Mais si on voit les choses de manière réaliste, moi, je n'ai pas ce budget, je n'ai pas ce temps-là lorsque je réalise des films. Et dans ce cas, donc, lorsqu'on n'a rien à l'écran, eh bien, on peut pousser le spectateur, comme je le disais tout à l'heure, à se demander ce qu'il y a autour. Et donc, j'utilise au maximum ce type d'expression. C'est un choix de ma part de favoriser ce type de mise en scène.
Alors, Alors il y a peut-être Kiyoshi Kurosawa un autre point commun entre Chime et Cloud. Ce sont les personnages principaux qui ont un visage très impassible, mais c'est presque comme s'ils étaient absents au monde, qu'ils ne ressentaient plus aucune émotion, et qu'un des enjeux des deux films, c'est de leur faire ressentir, et donc nous, spectateurs, voir cette émotion sur leur visage, que ce soit de l'effroi ou de la tristesse, des pleurs.
Oui,
Que ce soit dans l'un ou dans l'autre film, je n'ai pas poussé les acteurs à jouer de manière impassible. Mais dans la mesure du possible, je leur ai demandé d'être ordinaire. Donc, ils se mettent en colère, ils montrent leur tristesse. Mais après, c'est vrai que les Japonais ont tendance à ne pas trop exprimer leurs sentiments. Alors, non seulement ils ne les expriment pas, ces sentiments, mais, et ça c'est particulièrement le cas de nos jours, et moi-même je suis comme ça. Mais les Japonais, alors je ne sais pas comment sont les Français, mais en tout cas, quand il leur arrive quelque chose, ils sont bouleversés intérieurement, mais eux-mêmes n'ont pas conscience de la nature du sentiment qu'ils sont en train de ressentir. Après, quand ils y repensent, ils se disent « Ah oui, là, c'était peut-être de la peur, là, c'était peut-être de la joie. » Ils se rendent compte après coup, mais ils ont du mal à réagir sur le coup. Donc, ils vont d'abord réfléchir, vérifier à la nature de ce qu'ils ont ressenti avant de prendre le risque d'exprimer cette émotion. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais dans Chime comme dans Cloud, c'est la même chose. Ce sont des Japonais d'aujourd'hui typiques. Quoi qu'il arrive, ils ne vont pas réagir tout de suite. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils vont d'abord réfléchir à ce qui est en train de se produire en eux. Et une fois que l'émotion est passée, ils vont réfléchir à la manière dont ils vont réagir. Et c'est ça que j'ai représenté dans mes deux films.
Parfois, on n'a pas trop le temps de réfléchir, notamment quand on se retrouve au milieu d'une fusillade. C'est le cas dans Claude, et je crois que c'est une première chez vous. Je ne repère pas de gunfight dans vos films précédents. Est-ce que c'était une des raisons aussi qui vous ont fait faire ce film, Kiyoshi Kurosawa ?
Oui,
il y a de ça, c'est vrai. Alors bien sûr, dans les films américains, on voit beaucoup ce genre de scène. Et moi-même, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup voir ce type de film. Et je me disais qu'un jour, j'aimerais beaucoup réaliser ce genre de film. Mais au Japon, ce n'est pas si facile. Déjà, on fait rarement face à ce genre de scène dans la réalité au Japon. Et si une fusillade se produisait, je ne sais même pas comment les gens réagiraient, en fait. Alors, il y a certes beaucoup de films japonais avec des scènes de fusillade, mais ils sont incomparables avec les films américains de ce genre. Ils sont beaucoup plus ennuyeux, souvent. Ils sont beaucoup moins bien faits que les films américains. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais là, pour ce film, c'est vrai que j'avais toujours eu cette envie de faire ce genre de scène, donc je m'y suis attaqué. Mais je savais dès le départ que je n'arriverais pas à faire un film une scène à l'américaine. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est en plein cœur d'une fusillade, il faut réagir immédiatement. Vraiment réagir dans l'instant. C'est un moment de tension, qui est un moment très intense qui est provoqué. Mais au sein de ces réactions très rapides qui nous sont demandées, moi, ce que je voulais exprimer, c'est l'intervalle entre deux actions, entre deux coups de feu. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Alors peut-être que dans les films américains, on n'a même pas le temps d'exprimer ça, et donc l'action va avancer à toute vitesse. Mais moi, je ne voulais pas être dans cette temporalité-là. Je voulais qu'on a un coup de feu, et puis jusqu'au prochain, qu'est-ce que le héros va ressentir ? ressentir, comment ces sentiments vont-ils évoluer? Comment sa relation avec les autres protagonistes va se construire? Voilà, je voulais qu'il y ait cette temporalité-là jusqu'au coup de feu suivant. Et là, de nouveau, le protagoniste principal fait face à une évolution. Et puis on va avancer comme ça. Et donc voilà, c'est l'importance de ces intervalles qui évoluent que je voulais exprimer le plus dans cette mise en scène.
Oui, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que les personnages qui sont impliqués dans cette scène de fusillade, les tueurs notamment, pensent sans doute, eux, être dans un film d'action américain. Ils voient ça comme un jeu. Et c'est la réalité qui leur tombe dessus, comme la réalité tombe sur ce personnage de Ryosuke, qui travaille dans le monde virtuel et qui va découvrir en quelque sorte ce qu'il y a de concret dans le cloud, justement.
Oui, ce côté virtuel, ce côté jeu, c'est vrai que ça commence de cette manière. Mais à chaque fois qu'on a des réactions très intenses par rapport à ça, c'est comme si ce qui était au début un jeu devient une sorte de destinée auquel les personnages ne peuvent pas échapper. C'est un peu ça l'effet que je voulais produire lorsque j'ai tourné ces scènes.
Et au milieu de tous ces personnages, il y en a un qui est assez étonnant, qui est l'assistant de Ryosuke. Autant dans Chaim, le mal est invisible, ici il est presque incarné en un personnage, mais qui est très ambigu. C'est quelqu'un qui est très loyal, qui est très à la rescousse, toujours, mais dont on se dit que c'est quand même une sorte d'incarnation du diable avec qui Ryosuke aurait passé un pacte faustien. Comment est-ce que vous avez pensé ce personnage, Kiyoshi
Kurosawa?
Oui, là, vous avez tout révélé de ce personnage dans votre question. C'est, oui, on dirait le diable en personne. Il soutient le héros, il exauce tous ses vœux, mais en échange, il va prendre son âme. C'est ce genre de personnage. Et c'est ce que j'avais expliqué à l'acteur pour interpréter ce rôle. Bien sûr, dans l'histoire, il y a quelques informations. On se dit, est-ce qu'il appartiendrait à une organisation criminelle, à des Yakuza ? Voilà, il y a de petits indices tout au long du film. Mais ce sont vraiment, ça s'arrête à des indices. Mais on peut tout à fait l'interpréter comme le diable en personne.
Pour revenir à Chaim, vous avez vous-même été professeur. Je ne sais pas si vous enseignez encore le cinéma. Le malheureux héros de Chaim est un professeur. Je voulais savoir ce qu'il y avait de vous en lui. Et est-ce que, comme professeur, vous avez eu parfois envie de vous débarrasser violemment de quelques-uns de vos étudiants?
C'est une question qui me surprend un petit peu, je vous l'avoue, et je suis un peu bouleversée, parce que je pense ne l'avoir dit à personne, mais lorsque j'ai conçu le scénario de Chaim, dans le scénario original, il s'agissait d'un professeur d'université et de ses étudiants. Mais en partant de ce scénario, ça n'aurait pas été très intéressant au niveau du cadre, du décor, du film. Et puis, ça aurait tellement reflété mes propres expériences que je trouvais ça un peu difficile. Donc, voilà, j'avais commencé par imaginer le cadre dans une université, mais j'ai changé d'idée. Dans un endroit où un meurtre pourrait survenir plus facilement, mais dans un endroit avec un rapport de maître à élève. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, une école de cuisine, ce serait le lieu idéal. Donc voilà, au début, c'était un professeur d'université et ses élèves.
Mais
je tiens à dire que je n'ai jamais eu d'envie de meurtre par rapport à mes étudiants. Mais j'ai tout à fait conscience que dans une université, il est possible qu'un professeur ait ce genre de sentiment.
Merci beaucoup, Yoshiko Ozawa.
Merci beaucoup.
Chime est sorti en salle française ce mercredi. Il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir Cloud. Merci à Miyako Slocum d'avoir traduit les propos de Kyoshi Kurosawa. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec quelques-uns des autres films sortis cette semaine non moins inquiétants.
You love your brother, but what you are doing is fundamentally wrong.
No one in here has a clue.
I'm here.
Le métamorphisme est un phénomène bien connu chez les minéraux. Ce qu'on ignore encore, c'est pourquoi il s'étend aujourd'hui au monde animal.
Fuyez tout de suite.
Call it. Heads.
Heads.
Is this supposed to be here? It was under the lunch trolley.
Oh dear.
Who cares?
I care. Public sex defense.
No, I told you. No shit currency. Big money only. What you gonna do with that?
Count it.
Anna. Anna.
Willi?
Ja, Robert.
Wie kommt sie in deine Wohnung?
Sie hat einen Schlüssel.
Sag mal, wo stammt das alles her?
Hör zu, Willi.
Robert, ich denke, dass du mir eine Antwort schuldest.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, les âmes de défunts qui reviennent passagèrement dans d'autres corps pour laisser à leurs proches le temps de leur faire leurs adieux. C'est le très glacé Another End de l'italien Piero Messina, une sorte d'énième variation au carré sur le séminal Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Un couple confiné pour tenter d'échapper à un virus qui fait fusionner les humains avec leur environnement et se transmet par le regard. C'est sous forte influence chronologique Bergo-Lynchienne, Else, le premier film d'un jeune cinéaste français à suivre, Thibaut Aymin. Un milliardaire au visage droupillesque, tentant un dernier coup avant de transmettre l'affaire familiale à sa nonne de fille, c'est de façon thriller exotique The Phoenician Scheme, le nouveau film de Wes Anderson, avec ses habituels débauches de costumes, décors et objets soigneusement rangés et arrangés, et myriades de stars toujours plus asthéniques. Une rétrospective à la cinémathèque française permettra du 1er juin au 26 juillet de regretter un peu que la filmographie du Texan francophile ait pris ce chemin-là. Un film de casse masculiniste à l'ancienne mais dont on appréciera la sécheresse brutale de la mise en scène, c'est L'ultime braquage du Danois Frédéric Louis Vide, dont la moindre des curiosités n'est pas d'avoir donné un des rôles principaux au français Reda Kateb, parfait en sadique sobre. Une mère de famille dont le regard sur le monde va être bouleversé par la transition de genre de sa fille. C'est la mitad de Anna, premier film quasi surréaliste de la comédienne espagnole passée réalisatrice Marta Nieto. Et puis enfin, le destin très tragique d'une chanteuse dans l'Allemagne nazie, c'est Lili Marlène, la grande fresque de Rainer Werner Fassbinder, qui en 1980 avait offert un de ses plus beaux rôles à Anna Chigula et qui fait retour cette semaine en version restaurée. On recommande encore, pour prolonger les plaisirs du mélodrame, une rétrospective John M. Stahl, spécialiste du genre, c'est à la Cinémathèque française jusqu'au 29 juin, parallèlement à une programmation sur le cinéma chinois au féminin. Asie toujours à l'Institut Lumière à Lyon, c'est l'explosion du cinéma sud-coréen derrière la figure ultra célébrée de Bong Joon-ho qui sera explorée du 4 juin au 20 juillet. Pour les amateurs de format court, on signale deux festivals. Côté court, c'est à Pantin du 4 au 14 juin et le court en dit long du 4 au 7 au centre Wallon. Wallonie, Bruxelles, à Paris. Et enfin, pour constater comment les actrices composent avec le fait de vieillir dans une industrie obsédée par la jeunesse, le cinématographe de Nantes a eu la riche idée de composer une programmation à partir de l'excellent livre de Muriel Joudet sur la question, La seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse, publié chez Premier Parallèle. C'est en juin et en juillet, et vous pourrez même en discuter avec l'autrice le 18 juin à 20h30 après la projection du Prêt-à-tout de Gus Van Sant. Et puisqu'on parle de cinématographe, eh bien voici quelqu'un qui a deux ou trois choses à dire à son sujet.
Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Mon film n'est pas autre chose qu'une séance de striptease consistant à ôter peu à peu mon corps et à montrer mon âme toute nue. Car il existe un considérable public de l'ombre, affamé de ce plus vrai que le vrai, qui sera un jour le signe de notre époque. Voici le legs d'un poète aux jeunesses successives qui l'ont toujours soutenu.
Cette voix, c'est celle de Jean Cocteau, poète et cinéaste, est en introduction du Testament d'Orphée, qu'on l'entend, c'était son dernier film en 1960, un an après avoir remis, comme président du jury du festival de Cannes, le prix de la mise en scène à François Truffaut pour son premier film, Les 400 coups, manière de saluer et soutenir en retour ces jeunesses successives qui l'ont toujours soutenu. Comme il disait, 30 ans auparavant, c'est un jeune poète, pas encore académicien, de 41 ans, qui s'essaye au cinéma avec le sang d'un poète, après déjà un premier essai en 1925, un film qui s'appelle Jean Cocteau fait du cinéma, qui est considéré comme irrémédiablement perdu. Ces deux films aux deux extrémités donc de l'œuvre cinématographique de Cocteau, Le sang d'un poète et Le testament d'Orphée, sont ressortis tous deux la semaine dernière en version restaurée. Quelle traversée du miroir avez-vous effectuée avec eux, Sophie-Catherine Gallet ?
Bien, c'était une traversée assez rêveuse, Antoine. Alors, on connaît bien le Jean Cocteau de La Belle et la Bête, par exemple, un film porté par une narration suivie. Mais on connaît peut-être un peu moins bien les films plus expérimentaux de Cocteau, dont Le Testament d'Orphée et Le sang d'un poète, sont très représentatifs et qui sont, eux, ancrés dans une narration qui n'a franchement rien de très logique. Il serait, de fait, un peu compliqué de raconter l'histoire, de résumer l'enjeu narratif du Testament d'Orphée. On pourra dire, cependant, qu'il s'agit d'une déambulation entre mythe et réel, dans les limbes d'un imaginaire auquel se raccroche par certains points éphémères évanescents notre réalité. Une déambulation d'un poète, incarné par Jean Cocteau lui-même, projeté dans une autre époque que la sienne grâce à sa mort, et qui rencontre un univers dans lequel se promènent ses créations et ses obsessions. La promenade qui continue ensuite dans plusieurs lieux se déroule largement en compagnie de Ségeste, création du poète, interprété par Édouard Dermite, aux traits qui ne sont pas sans évoquer un jeune Jean Marais. Et c'est sans doute pas une coïncidence, puisque tout ce film est véritablement en fait le testament de Jean Cocteau, une façon de réunir ses amis, de Picasso à Maria Cazares, qui l'ont accompagné durant sa vie, sa création, dans une joyeuse et poétique fête de la mort qui arrive, acceptée avec légèreté et ironie. Et Cocteau mourra en effet 3 ans après ce film. Un film profondément joyeux, enlevé, parfois blagueur, toujours poétique, et qui souligne le but fuyant du poète qui aura tenté toute sa vie d'abolir le quatrième mur mystérieux et faire se rencontrer les mondes et les temporalités. Alors peut-être ces quelques mots vous évoqueront aussi un autre cinéaste, David Lynch, et il y a en effet une filiation dont je me suis aperçue que cette fois en revoyant le Testament d'Orphée que j'avais pas vu en fait depuis plusieurs années. Une manière de jouer de la surimpression, de la disparition, de montrer le truc, de dialoguer sans cesse avec la mort, d'ouvrir des brèches vers d'autres mondes parallèles aux nôtres, de construire des ponts entre les réalités, de faire émerger aussi des créatures étranges, un peu monstrueuses. Deux pratiques qui divergent cependant à l'endroit de l'angoisse, terrain plus exploité par Lynch que par Cocteau, qui exploite, lui, l'étrange, le fantastique, au service de l'humour et de la tendresse, des émotions servies par la beauté des plans, leur simplicité aussi, pour explorer en profondeur le mystère sans cesse renouvelé de la vie.
Essaye.
Essaye, essaye. Quelques mots prononcés par une statue poussant un homme, jeune poète, encore hésitant, à se propulser dans un autre monde, le monde de ses rêves. Une traversée qu'il effectue cependant par un miroir, une traversée représentée par ce cri soudain que nous entendions à l'instant dans l'extrait. C'est là donc le tout premier film qu'on puisse voir de Cocteau, Le sang d'un poète, réalisé en 1932, un film produit par Charles de Noailles, mécène qui avait également financé L'âge d'or de Buñuel. Alors cette filiation, tout comme l'aspect onirique du film, pourrait faire penser qu'il s'inscrit dans la mouvance surréaliste, mais cependant Cocteau refusait justement cette filiation. Opposé au système de création du type écriture automatique, il considérait que la poésie ne s'atteignait qu'au prix d'un travail acharné, d'une violence obscure, tenace, qui condamnait à la solitude la plus totale. Et ce premier film, au fond, ne parle que de ça, au travers de plusieurs scénettes mettant en scène chacune un endroit étonnant, l'état entre l'éveil et le sommeil, où les rêves ne se composent plus que d'éléments étranges qui résonnent entre eux, des scénettes où la violence, de diverses natures à chaque fois, est omniprésente. Onirisme, énigme comme moteur de la création, temporalité qui s'entrechoque sans logique, statue animée, mort omniprésente, toutes les thématiques qui feront l'œuvre de Cocteau sont déjà là dans ce premier film, pour mettre donc en image ici la difficulté de la création jusqu'à mettre en abîme cette difficulté durant la dernière scénette du sang d'un poète où le poète se suicide sous les applaudissements du public. Mort du poète qui sera également présent dans le testament d'Orphée, permettant cette fois-ci au poète d'accéder aux autres mondes. La mort devient ainsi vecteur, devient moyen, devient élément de mise en scène pour construire le rêve. Et Cocteau donnera d'ailleurs véritablement de sa personne pour parachever la mise en image et en son de la difficulté à créer en enregistrant son propre cœur pour la bande-son du film mêlée à la musique composée par Georges Auric.
Merci Sophie-Catherine Gallet. Le sang d'un poète et le testament d'Orphée de Jean Cocteau, c'est à voir sur grand écran depuis la semaine dernière. Évidemment, ce n'est pas la musique de Georges Auric qu'on entend, mais celle de Darius Milhaud pour Le bœuf sur le toit, autre grande œuvre coctalienne. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Nicolas Bonnet, Sébastien Huel et Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.